Le paquet de carotteurs l'attendait dans sa boîte. Il était aussi épais qu'un annuaire. Mac Caleb le rapporta au bureau, l'ouvrit et en étala les pièces sur la table du salon. Il y trouva le dernier rapport de synthèse sur l'affaire Donald Kenyon et se mit à le lire. Il voulait savoir où on en était et reprendrait le reste plus tard. L'enquête était le fruit d'une coopération entre le FBI et les services de police de Beverly Hills, mais aucun élément nouveau n'y était apparu. Les agents responsables des recherches au bureau, ils appartenaient à l'unité des enquêtes spéciales de Los Angeles et s'appelaient Nevins et Hulig, concluaient que Donald Kenyon avait été très vraisemblablement exécuté par un tueur à gages. On avait deux théories sur l'identité du commanditaire. Selon la première, une des 2000 victimes de l'effondrement de la banque de dépôt n'avait pas trouvé la condamnation de Kenyon suffisante, ou alors, craignant que celui-ci ne réussisse encore une fois à échapper à la justice, avait engagé les services d'un assassin professionnel. Selon la deuxième, le tueur s'était mis au service du partenaire inconnu qui, selon les allégations de Kenyon, l'avait contraint à piller sa propre banque. Et ce partenaire, que Kenyon avait refusé d'identifier pendant le procès, était toujours aussi mystérieux pour les agents du bureau. Mac Caleb trouva intéressantes les grandes lignes de la théorie numéro 2, dans la mesure où elle laissait entendre que le gouvernement fédéral était enfin prêt à envisager que Kenyon ait effectivement pu être contraint de piquer dans la caisse de sa banque de dépôt. Le procureur général ayant beaucoup brocardé cette affirmation pendant les débats, il était allé jusqu'à traiter l'inconnu de « fantôme de Kenyon », la grande nouveauté était donc là. Le mémo du FBI reconnaissait maintenant que le « fantôme de Kenyon » avait toutes les chances d'exister dans la réalité. Nevins et Hulig bouclaient leur rapport sur un bref profil de l'homme qui avait commandité le crime et, miracle, ce profil cadrait avec les deux théories. Fortuné, capable de brouiller les pistes et de garder l'anonymat, l'homme devait avoir des relations avec le milieu dont peut-être même il faisait partie. En dehors de ce rapport qui insufflait quelque vigueur au fantôme de Kenyon, Mac Caleb s'intéressa surtout à l'idée que le commanditaire, et donc aussi le tueur à gages, avait des liens avec le crime organisé, ce qui, en jargon FBI, voulait tout simplement dire la mafia. Celle-ci avait certes des ramifications à peu près partout dans le pays, mais exerçait une influence limitée en Californie du Sud. Qu'il y ait du crime organisé en quantité dans la région n'empêchait pas que la plupart des délits ne soient pas commis par les mafieux qu'on voit traditionnellement au cinéma. De fait, c'était plus des Russes ou des Asiatiques que des Italiens qui s'en rendaient coupables. Mac Caleb classa les documents par ordre chronologique et reprit tout depuis le début. Il s'agissait surtout de pièces de routine et de remises à jour qu'on avait fait remonter au grand patron de Washington. En les parcourant rapidement, il tomba sur le rapport d'activité de l'équipe de surveillance qu'on avait détaché le matin de la fusillade et complètement fasciné le lut d'un trait. 4 agents se trouvaient à bord du Vent au moment du meurtre. Mardi matin, 8 heures, c'est la relève, 2 agents arrivent, les 2 autres s'apprêtant à repartir. Celui qui est à la table d'écoute ôte son casque et le passe à son remplaçant. Malheureusement, celui-ci est du type agressif et prétendant s'être un jour retrouvé couvert de poux suite à un échange d'écouteurs, il prend tout son temps pour installer ses propres protections en mousse sur l'appareil qu'on lui passe, allant jusqu'à le désinfecter à la bombe pendant que ses 3 collègues se paient sa tête. Pour finir, il se le met sur les oreilles et pendant 1 minute ou presque, c'est le silence. Puis il entend une conversation étouffée suivie d'une détonation. Le son n'est pas clair parce qu'on n'a pas placé de micro dans l'entrée, l'idée étant que si Kenyon a l'intention de filer, ce n'est pas par la porte de devant qu'il le fera. Résultat, on n'a posé des micros qu'aux endroits de la maison où il se trouve le plus souvent. L'équipe de nuit n'étant toujours pas repartie, on avait donc continué de chahuter dans le vent, mais en entendant le coup de feu, l'agent gueule qu'on fasse silence. Il écoute plusieurs secondes tandis qu'un deuxième agent se met un autre jeu d'écouteurs sur les oreilles. Ce qu'ils entendent tous les deux, quelqu'un qui, dans la maison de Kenyon, dit très clairement ceci près d'un des micros. « N'oublie pas le cannoli. » Les 2 agents casqués se regardent et sont d'accord. Ce n'est pas Kenyon qui a prononcé cette phrase. Devant l'urgence de la situation, ils bousillent leur couverture et se ruent vers la maison où ils arrivent quelques instants après que Donna Kenyon y est elle-même arrivée, ouvre la porte de devant et découvre son mari étendu par terre sur le marbre, la tête baignant dans le sang. Ils appellent le bureau pour demander des renforts, avertissent la police locale et l'ambulance et commencent à fouiller la maison et les environs, mais l'assassin a filé. Mac Caleb passa à la transcription de la dernière heure d'enregistrement effectuée chez Kenyon. La bande avait été gonflée au labo du FBI, mais tout n'y était pas parfaitement audible pour autant. Bruit des filles de Kenyon prenant leur petit déjeuner et parlant avec leur père et leur mère. Puis, à 7h40, les filles et leur mère s'en vont. La transcription faisant état de 9 minutes de silence avant que Kenyon passe un coup de fil au cabinet de son avocat, Stanley Lagrossa.
Oui, Donald à l'appareil.
Ah, Donald, ça marche toujours?
Oui, si vous êtes toujours intéressé.
Je le suis, je vous verrai au bureau.
Vous connaissez les risques.
Je vous y retrouve. 8 autres minutes de silence, puis c'est une voix inconnue qui se fait entendre dans la maison. La conversation est sèche, une part en étant perdue lorsque Kenyon et l'inconnu s'éloignent des micros en se déplaçant à droite et à gauche. Qui plus est, elle a apparemment eu lieu au moment même où les agents échangeaient leurs casques à l'intérieur du van.
Qu'est-ce que... Ta gueule, tu fais ce que je te dis et tout le monde s'en sort, compris? Vous ne pouvez pas entrer chez moi comme ça et vous... Ta gueule, je t'ai dit! Allons-y, par ici!
Ne leur faites pas de mal, je vous en prie, je...
Pas ça, je ne le ferai pas, et il le sait, je ne comprends pas, il... Ta gueule, je m'en fous!
2 minutes de silence de plus, puis c'est le dernier échange de paroles. Bon, écoute, et vois un peu qui...
Non, elle n'a rien à voir avec ça, elle...
Coup de feu, et quelques minutes plus tard, le micro numéro 4, qui est caché dans le petit bureau avec porte donnant sur l'arrière de la maison, saisit la dernière phrase de l'inconnu.
« N'oublie pas le cannoli,